renversée devant vous, Véronique Margron et moi-même. Ensuite, nous vous donnerons la parole pour que vous posiez toutes les questions, que vous fassiez toutes les objections, que vous adressiez toutes les critiques que vous souhaitez. Et puis, tout à la fin de la soirée, Véronique Margron pourra dédicacer son dernier ouvrage, celui qui justifie sa venue parmi nous, Un moment de vérité, paru récemment aux éditions Albin Michel. J'ajoute que cette soirée, ce n'est pas le cas de toutes les soirées, mais c'est le cas de celle-ci, est organisée avec le concours de la Conférence catholique des baptisés de Nantes. Beaucoup d'entre vous connaissent Véronique Margron, même certains d'entre vous sont des proches. Ai-je cru comprendre? Je vais quand même la présenter rapidement, parce que c'est une... J'espère ne pas vous faire rougir. C'est une personne rare. Voilà, ça fait rire. Je maintiens. C'est une personne rare. Parce qu'elle allie des qualités, des expériences, des talents qu'on ne retrouve pas nécessairement communément chez la même personne. On dira peut-être d'abord que c'est une praticienne, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à mettre les mains dans le cambouis. Après des études de psychologie, elle a travaillé avec des jeunes délinquants pour le compte de la protection judiciaire de la jeunesse, jeune délinquant, milieu ouvert, donc elle sait très concrètement ce que peut être la souffrance d'un jeune garçon ou d'une jeune fille. C'est aussi dans la grande tradition dominicaine, puisque j'aurais dû commencer par là, Véronique Margron est religieuse dominicaine, mais je vais y venir, et donc dans la grande tradition dominicaine de savoir et d'études, c'est une intellectuelle, les docteurs en théologie et ceux qui ont lu ou qui liront ce livre verront qu'elle jongle avec Ricoeur et Ancionas, qu'elle cite Winnicott et Lacan, pas au détour de chaque page, mais enfin, fréquemment, voilà, ça lui vient tout naturellement sous la plume. Et puis, troisième singularité, troisième talent, troisième charisme, pour employer les mots de la tribu, c'est une responsable. Elle est la prieure provinciale de France des Dominicaines. Donc, je passe un petit peu sur le nom entier de la congrégation. Elle est la première femme à occuper ce poste, la présidente de la conférence des religieuses et religieux de France. Elle est l'ancienne doyenne de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. Et puis, j'aurais peut-être pu commencer par là, c'est évidemment aussi une femme de foi, elle qui écrit « Je suis devenue croyante » en marchant de rencontre en rencontre, en lisant les évangiles, en écoutant des croyants, en me confrontant à la prière, en m'imprégnant avec tant d'étonnement au début du silence des monastères. Ma foi est constituée de cet alliage. Pour moi, le cheminement spirituel a toujours consisté à aller à la rencontre de ce qui advenait, de ce qui était rendu possible, sans a priori, les yeux ouverts. J'ai avancé en quelque sorte en autodidacte et avec prudence sur cette terre religieuse, sans la prendre pour la terre promise, pour un idéal ou un aboutissement. Aujourd'hui où l'Église fait face à des scandales profonds et à une remise en cause d'elle-même essentiel, c'est mon itinéraire personnel qui me soutient, car je n'ai jamais attendu de cette Église qu'elle soit parfaite et je ne l'ai jamais non plus imaginée comme telle. Vous avez écrit ce livre en collaboration avec un journaliste qui vous décrit comme une lanceuse d'alerte. et qui cite cette réflexion, vous dites « Ah, souvent les catholiques disent que les médias en font beaucoup trop ». Non, non, ils n'en font pas assez, car, je vous cite, « l'Église n'a bougé que sous la contrainte des victimes et des médias ». Vous reconnaissez-vous dans ce qualificatif de lanceuse d'alerte ?
C'est peut-être un peu osé quand même, enfin... Par rapport à d'autres lanceurs d'alerte, voilà, je pense qu'il faut raison garder en quelque sorte. Mais en tout cas, comme participant de cette conscience et de cette prise de conscience, oui, je pense, oui, oui. Aussi parce que j'écoute, sans doute est-ce là le fond, non ? J'écoute des souffrants depuis très 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 longtemps et j'écoute des personnes victimes... d'abus et d'agressions sexuelles depuis aussi très longtemps, et depuis un peu moins longtemps, mais longtemps désormais, des personnes victimes dans l'Église. Donc, voilà, on peut dire que ça vient de cette terre-là, en quelque sorte, de cette pratique-là.
Alors, vous décrivez cette crise comme atteignant une ampleur tout à fait considérable. Vous dites c'est un scandale, c'est un désastre. Vous dites, ce n'est plus l'heure de prétendre faire la morale à quiconque. Vous écrivez, c'est une crise systémique. Pouvez-vous développer cette différence entre ce qui pourrait être accidentel et ce qui est systémique, ce qui renvoie à la racine de l'institution ?
Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes bien nombreux, hein, y compris le pape François, y compris nombre et nombre d'évêques, pour signifier que cette crise est systémique. Autrement dit, on a plusieurs facteurs. Bien sûr qu'on a des agresseurs, parce que, évidemment, s'il n'y en avait pas, nous n'en serions pas là. Donc il y a des agresseurs, parfois des femmes d'ailleurs, hein, qui ont abusé de leur autorité, de la confiance qui leur a été faite par des enfants, parfois par des adultes en situation de vulnérabilité, comme vous l'avez sans doute vu pour beaucoup d'entre vous dans le reportage d'Arte sur les religieuses violentées. Donc il y a ce facteur-là de cet abus d'autorité donc qui vient du fait que évidemment que les gens d'église exercent une autorité, qu'on est censé pouvoir leur faire confiance. Donc ça, c'est un premier élément du système. Donc ils peuvent commettre leurs méfaits au nom de cette confiance sans doute parfois aveugle qui leur a été faite, en tout cas trop idéalisée, sans aucun doute. Mais aussi, il y a dans cette crise systémique le fait de la raison de ce qui est sans doute la racine du scandale d'aujourd'hui, qui n'est pas seulement qu'il y ait des agresseurs, qu'il y ait des prédateurs, mais qui est toute cette problématique du secret, du silence, de l'omerta, de la façon dont l'institution, qu'il s'agisse d'ailleurs de la vie religieuse ou qu'il s'agisse de l'Église, des diocèses, ont pu cacher, minimiser, dénier, voire couvrir, dans certains cas, ces crimes. Donc le système, il est là, il est qu'à partir du moment où une institution ne veut pas voir, et même parfois dénie, et parfois manifeste clairement que, en fin de compte, la victime est une menteuse. Alors là, on est vraiment dans un système, puisqu'un certain nombre de ces hommes, bien tragiquement, auront pu sévir des décennies. Donc là, on voit bien qu'on est au-delà de la seule particularité personnelle d'un criminel, hein, parce que pour pouvoir sévir pendant des décennies, il faut forcément des complicités, qu'elles soient passives, par désinvolture, par manque de connaissances, par aveuglement, ou qu'elles soient, dans certains cas, carrément actives.
Alors vous expliquez que, d'une certaine manière, sur le plan organisationnel, l'Église est mal armée pour répondre à une telle situation. Vous avez une belle expression, un beau passage. On dit, voilà, l'Église n'est pas une armée, pas plus qu'une entreprise. Les évêques ne sont pas les employés du pape, ni les prêtres ceux de leur évêque. Nous sommes dans des relations d'adhésion, et non de subordination. Ce modèle est profondément évangélique, car il repose sur la droiture, la cohérence, la bonne foi. Mais, quand tout cela dérape, ou se révèle être un mensonge complet, l'Église se retrouve démunie. Et vous dites que les choses se passent comme dans une famille, où il y a un secret qu'on a très peur de révéler, et que voilà, c'est ça qui entretient l'omerta, pour reprendre votre terme.
Oui, c'est-à-dire c'est compliqué parce que, en fin de compte, ce que révèle cette crise et ce drame, c'est que le meilleur peut devenir le lit du pire. Vraiment, le meilleur qui est la confiance peut devenir le lit de l'abus de confiance. Le meilleur qui est en effet la façon qu'a l'Église catholique, et particulièrement depuis Vatican II, de se penser comme communauté. C'est-à-dire l'Église catholique, elle cumule deux modèles, et c'est sans doute un peu compliqué de les articuler, on le voit aussi ici, qui est un modèle qui nous apparaît encore, et qui est encore en bonne partie, très vertical, mais c'est aussi un modèle qui est très horizontal, par diocèse, par communauté, et c'est souvent des communautés plus parcellaires, que extrêmement organisées entre elles. Et en effet, il n'y a pas de gendarmerie, il y a une justice, mais avec toutes ses limites, qui est la justice ecclésiastique. Il n'y a pas de gens pour enquêter, il n'y a pas d'officier de police judiciaire, il n'y a rien de tout ça. Donc on est confronté à cette situation que quand cette adhésion, en cette confiance mutuelle, quand ce respect est à l'œuvre, et bien c'est magnifique, et ça permet beaucoup de créativité, beaucoup d'ajustements au terrain. C'est aussi pour cela que l'Église a pu se déployer, se transmettre l'Évangile, qu'elle peut être au plus près, de toute l'humanité, en tout cas potentiellement de toute l'humanité, mais au jour où en effet ça dérape, au jour des dérives, alors là elle se trouve, y compris quand elle le veut, ce que j'ose croire c'est le cas maintenant, c'est-à-dire quand elle veut combattre ses dérives, eh bien c'est très compliqué, parce qu'il faudrait, ou il faut, je ne sais pas, parvenir à convaincre, à convertir, à changer chacun, chaque lieu, en quelque sorte chaque fonctionnement paroissial, diocésain. Autrement dit, le pape peut bien prendre des décisions, et je pense que on ne peut vraiment pas lui reprocher de ne pas en avoir prise depuis quelques années. Il n'y a pas une sorte de descente directe entre les décisions du pape et leur possible application dans la vie concrète des diocèses, comme si nous avions un PDG, le PDG décide et tout le monde à son étage, mais cela en forme et y obéit. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans l'Église. Et on ne peut pas s'en plaindre, puisqu'en même temps, c'est un modèle beaucoup plus communautaire, beaucoup plus collégial. Donc, on ne peut pas souhaiter revenir à une Église où le pouvoir central serait tout puissant. Donc, on voit bien notre difficulté. Ceci a sans doute aussi participé à favoriser les abus, parce que les communications d'un évêque à l'autre se faisaient très peu. J'espère qu'elles se font plus, mais d'un bout à l'autre du monde, je ne suis pas totalement convaincue, et donc pouvait faciliter le fait que des prêtres prédateurs puissent, comme ça, passer d'un diocèse à un autre, d'un pays à un autre, sans qu'on s'interroge beaucoup, ou même pas du tout, sur les raisons, sans qu'aucun dossier ne les suive, sauf s'il y avait eu vraiment des procès, des choses quand même rares. Donc voilà, donc on est dans cette situation-là aujourd'hui, où je veux croire qu'il y a une vraie volonté de faire la justice, de faire la vérité, de réformer ce qu'il doit l'être, mais où tout cela est remis aux décisions, mais les décisions reposent après sur la capacité d'adhésion des personnes. À commencer par la hiérarchie, à continuer chacun à son niveau, par chacun et chacune d'entre nous. demain, les évêques peuvent bien déclarer qu'il faut des églises plus synodales, plus collégiales, qu'il faut une meilleure participation des laïcs, vraiment à la gouvernance, pas seulement à l'animation de la vie paroissiale, mais à la gouvernance. Mais après, si les laïcs disent « Non, 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 monsieur le curé, c'est votre affaire », ben voilà, on n'y arrivera pas. Donc, vous voyez, c'est chacun dans sa part de responsabilité, c'est un tout, et encore une fois, pour le meilleur, c'est heureux. Donc c'est ça qui est très compliqué et qui est parfois très, très inquiétant, voilà, qui fait mal.
Est-ce qu'il n'y a pas des racines beaucoup plus anciennes et finalement beaucoup plus fondamentales? Vous faites référence à un livre important d'un historien américain, Peter Brown, qui est un historien de l'Église primitive, un historien de l'Antiquité tardive, qui a écrit notamment une intéressante biographie de saint Augustin. Et là, le livre dont vous faites état, c'est un livre dont le titre est éloquent, le renoncement de la chair, virginité, célibat et continence dans le christianisme primitif. N'y a-t-il pas un problème fondamental du christianisme en général, du catholicisme en particulier, avec la sexualité?
Ça, vraiment, je n'oserais pas vous dire le contraire. Ça, vraiment, ça, on peut vraiment... Malheureusement, on ne peut que corroborer cette affirmation, y compris aujourd'hui encore, donc, et a fortiori à l'échelle de l'Église universelle. Oui, alors après, il faudrait pouvoir entrer dans le détail ou dans les sujets singuliers par rapport à la question qui nous occupe ce soir. Autrement dit, le lien entre les deux ici, c'est comment ce renoncement à la chair a pu, y compris encore aujourd'hui, occulter la gravité de la chair, pour le dire comme cela. Autrement dit, ce qu'on voit quand même, puisque je reçois beaucoup, beaucoup de victimes, c'est combien les abuseurs sont souvent des hommes qui ont une profonde immaturité affective, quel que soit leur âge. En même temps, une grande aura. C'est souvent des personnalités très charismatiques, l'un peut parfaitement aller avec l'autre, malheureusement. Bon. Donc une vraie maturité affective, en particulier dans la capacité d'être en relation réciproque avec l'autre. En relation vraiment de partenaire. Je ne vous dis pas de partenaire sexuel, mais de partenaire tout court. Et donc, où en quelque sorte, le refuge, si j'ose dire, vers l'enfance ou vers des personnes en vulnérabilité, est une façon d'affirmer une toute-puissante, une façon d'affirmer une virilité, d'affirmer un pouvoir. Et ce qui frappe beaucoup à partir de cela, qui n'est pas du tout spécifique aux prêtres ou aux religieux abuseurs, mais qu'on retrouve dans bien d'autres mondes, y compris dans les situations, dans les tragédies d'inceste, on peut retrouver exactement les mêmes personnalités psychiques. Ce qui est particulier là, c'est qu'en même temps, l'Église catholique, jusqu'à il y a très 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 récemment, c'est-à-dire presque jusqu'aux déclarations de Benoît XVI et de François, ne comprenait pas la gravité de l'agression sexuelle sur un enfant ou sur une personne en vulnérabilité. Moi, je me rappelle avoir entendu des personnes de la hiérarchie catholique me dire dans les années 2000... Alors 2000, ça nous apparaît Mathusalem, mais enfin, c'est pas loin, quoi, 2000. Et 2000, il y a bien longtemps que le petit père Freud était mort. Donc, enfin, quand même, les connaissances, la psychanalyse, bon, un peu au moins. Et d'avoir entendu, je pense particulièrement à une personne, à un responsable, après des premières révélations, bon, c'était l'affaire du père Piquant aussi, tout cela... dire « Ah, mais moi, jusqu'ici, pour moi, c'était la même transgression d'avoir des relations avec une femme et des relations avec un enfant. » Parlant comme cela. Et vraiment, je vous assure, ça n'était pas du tout un inculte du tout. Et il n'y avait aucun cynisme, aucun. C'était dit même avec c'était presque, j'ose, presque touchant, parce que c'était dit avec beaucoup de candeur. Donc ça montre cela, c'est-à-dire comme si cette sorte de rapport à un renoncement de la chair avait fait occulter, avait participé à occulter la gravité des actes. Au-delà de, bon, du fait de, du célibat, de, qui est une autre question, mais profondément, je pense que c'est d'abord cela. Et si vous regardez les textes, y compris encore les textes actuels, hein, où Dieu sait que le pape François a des propos forts, puisqu'il déclarait en janvier dernier, en janvier 2019 au corps diplomatique, que l'abus sexuel sur un enfant était le plus vil des crimes, dit-il, hein, hein, plus destructeur des crimes, donc on ne peut pas faire plus clair. Il n'empêche que ce crime est encore aujourd'hui mis canoniquement sous le même chapeau, si on peut dire, que l'adultère. Alors là, vous vous dites quand même, mais alors quand on essaie de dire, mais vous savez quand même, enfin, il n'y a pas de relation sexuelle avec un mineur, c'est une agression sexuelle. Ce n'est pas une relation, c'est un viol, une agression. On ne parle pas de la même chose. Donc on sent bien que ça vient de bien loin et qu'il faut trouver les mots, M-O-T-S pour le dire, il faut trouver les justes catégories et que le langage ecclésiastique, le langage tout court d'ailleurs en partie dans nos sociétés, mais quand même je crois qu'elles ont évolué un peu plus vite, hein, à occulter, à participer, à minimiser, voire à occulter la gravité de ces crimes.
Oui, ça vient de très loin, comme vous le disiez. Et là, là encore, je voudrais citer le passage qui clôt ce chapitre sur l'Église et la sexualité. Il dit, voilà, on comprend qu'une vision souvent sombre de la sexualité, de l'exaltation de la virginité, non tant comme art d'aimer, mais comme un ordre sacré, a pour origine une représentation de la souillure, de l'impureté. Il y a donc quelque chose de très archaïque, en fait.
Alors, il y a quelque chose de très archaïque chez chacun d'entre nous. Hein, quand on lit les travaux de Peter Brown ou de bien d'autres, ou des anthropologues, on voit bien que la question du rapport du pur et de l'impur, la question de la souillure est très, très archaïque en chacun d'entre nous, en chaque culture. Le problème peut-être de notre Église, c'est qu'elle l'a longtemps théorisée, en quelque sorte. C'est-à-dire en associant la souillure et le péché. Et donc en associant deux catégories qui n'ont rien à voir. La souillure, y compris, pour reprendre les catégories du Lévitique, les règles, l'accouchement...
On est dans l'ordre de la pureté rituelle.
Oui, exactement. Mais du coup, tout cela a dans une relecture, y compris du deuxième chapitre, du chapitre 2 et 3 de la Genèse, donc de ce qu'on appelle communément, et bien de façon bien maladroite, la chute, enfin, bon, en tout cas l'advenu de quelque chose qui a à voir avec le malheur et le mal entre les humains, va très vite être associé à cette souillure, c'est-à-dire va devenir une souillure, ce péché initial. Et donc là, un lien se fait entre la sexualité et le mal commis, entre la souillure et le péché, et en quelque sorte, ceci va perdure sans doute encore dans beaucoup de représentations, très très longtemps avec cette association qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans la Bible, c'est-à-dire à la fois la Bible associe souvent, hein, si vous prenez le psaume 50, la souillure, le péché, être blanc, être à la fois pur et être lavé de son péché, et en même temps le travail biblique va être de s'écarter de cela, de s'écarter de ces représentations-là au profit de la catégorie de la sainteté, qui n'est plus la catégorie de la perfection et encore moins de la pureté. La sainteté étant l'ajustement de la relation à Dieu, de la relation aux autres, hein, donc n'ayant plus rien à voir avec cette pureté. Mais il y a un fond qui résiste. Alors, je pense qu'il intervient étonnamment dans notre situation, parce que logiquement, dans une sorte de schéma continu, on devrait dire que justement, à cause de, ce, de cette vision bien longtemps bien sombre, au contraire, les agresseurs auraient dû être d'autant plus condamnés. Qu'ils touchaient vraiment en plus au plus sacré des sacrés pour nos sociétés. Alors, ce n'est pas depuis si longtemps, mais qu'est l'enfant, qu'est, bon, donc, d'autant plus. Donc, on a une sorte de situation à front renversé, quoi. Qui est tout à fait particulière, mais je pense que ce rapport à la souillure, à la pureté, a plutôt amené à une sorte de déni de la réalité. Combien de personnes victimes vous racontent que elles ont essayé de parler un jour, souvent quand elles étaient enfants, souvent quelques semaines ou peu de temps après qu'elles aient subi ces méfaits, après... Très souvent, l'amnésie traumatique a fait son œuvre et que, quasiment toujours, elles se sont entendues dire, alors ou par un prêtre à qui elles étaient allées se confier, ou à leurs propres parents, ouais. Mais enfin, tu ne peux pas salir cet homme. Ça veut tout dire, quoi. Tu ne peux pas salir ce prêtre. Tu vas salir l'Église. Et des victimes ayant parlé adultes à des responsables ecclésiastiques, qu'il s'agisse de supérieurs religieux ou d'évêques, ont entendu la même chose. Mais madame, vous ne pouvez pas salir l'Église. Donc on voit bien que ça remonte, le lien se fait de façon assez étrange, hein, mais il y a un fond qui est là et qui, de façon peut-être encore plus scandaleuse, n'a pas associé la saleté avec le mal commis par l'agresseur, mais de façon terrible, avec l'agressé.
Pour comprendre cette situation, ce front renversé, comme vous disiez, il faut sans doute continuer à parcourir l'histoire de l'Église avec des bottes de sept lieues et en arriver au Concile de Trente. Le Concile de Trente, chacun le sait ici, c'est au moment de la Renaissance, c'est le Concile de la contre-réforme, ou comme on dit plus souvent maintenant, le Concile de la réforme catholique, qui a très riche, enfin qui quand même en gros organise l'Église catholique de la façon dont on la connaît encore aujourd'hui, et qui notamment se soucie de manière tout à fait nouvelle de la formation des prêtres. C'est à ce moment-là qu'on crée des séminaires, c'est à ce moment-là qu'on invente le catéchisme. Alors, le prêtre change de statut avec le Concile de Trente, et vous écrivez fort éloquemment, un corps, le sens du mot corps après tout, un corps à part peut vite se transformer en un corps sacré qui peut se croire au-dessus de la loi. N'est-ce pas la situation que nous vivons?
En tout cas, c'est une des
dérives possibles, en tout cas.
C'est une des dérives possibles et c'est une des causes, ou en tout cas un des facteurs de ce qui est arrivé, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de double mouvement de sacralisation du corps des prêtres, du corps, y compris du corps personnel des prêtres, donc des prêtres par les prêtres, enfin par l'institution cléricale, pour le dire autrement, mais du coup il y a eu aussi une sacralisation de ces prêtres par les fidèles. Donc on a été dans ce double mouvement que l'Église catholique a considéré... les prêtres comme des hommes mis à part, ce qui remonte à ce qu'on trouve aussi dans le Concile Vatican II, mais pas du tout de cette façon-là, hein, non, pas du tout signifié de cette façon-là, mais dans le Concile de Trente, oui. Et en même temps, évidemment, que ce qui est devenu les communautés chrétiennes, qui n'étaient pas des communautés encore à l'époque, loin s'en faut, mais le peuple des fidèles, eh bien, lui-même s'est trouvé pris, mais... Ils ne pouvaient pas faire autrement. Enfin, c'était le mouvement dans lequel on leur transmettait la place du prêtre. C'était ce qui était dit dans tous les catéchismes de ces époques. Donc, avec une sorte de respect quasi sacré. Non, et moi, je vois cela aussi dans des communautés religieuses où pour certaines quand même les dérives sont lourdes, et où des sœurs donc, ont été agressées dans ces communautés, comme jeunes sœurs, parfois pendant longtemps, hein, manifestent exactement la même chose, c'est-à-dire que le discours de la communauté, donc là je ne vous parle pas du Concile de Trente, hein, mais des 20 dernières années, dans la communauté, c'était « c'est le Père qui sait ce qui est bon ». Donc ce que fait le Père, c'est ce que Dieu veut pour vous. Donc quand vous êtes pris là-dedans, parce qu'après il y a des phénomènes, évidemment, hein, d'abus de pouvoir, voire d'emprise qui se mettent en place. Donc une fois que vous êtes sous cette toile d'araignée-là, tout est possible, à commencer par le pire. Et il en faut à la fois du courage, de l'énergie, de la chance, pour s'en sortir. Donc oui, ça, je pense que cette sacralisation que combat le pape François dans sa lettre au peuple de Dieu sur la question du cléricalisme aura fait beaucoup de mal, je pense, aux prêtres eux-mêmes, et puis bien sûr à la communauté et à sa responsabilité, à sa capacité à la responsabilité, sans parler bien sûr des victimes et de leurs proches, parce qu'il ne faut jamais oublier ça non plus, hein, c'est que quand vous avez une victime, c'est exactement ce qu'on dit pour d'autres circonstances tragiques de l'existence, vous avez 10, 20, 30, 40, 50 victimes collatérales. Évidemment, les proches, si cette personne fonde une famille, ses propres enfants, son conjoint, c'est tout un milieu, sans parler, quand les faits sont révélés, de toutes les personnes qui ont été mariées par ce prêtre, dont les enfants ont été baptisés, qui d'un seul coup sont complètement perdus en disant « mais voilà, comment c'est possible ?» Enfin, donc c'est pour ça aussi que c'est systémique, parce que ce sont des à la fois des craintes, des soupçons, des inquiétudes de fond, de dire « mais en fin de compte, mon mariage, il a été fait par un type dont 20 ans après, on a appris que c'était un prédateur, donc qu'est-ce qu'il en est de mon sacrement de mariage ?» Vous pouvez bien faire tous les discours canoniques, ça ne tient pas devant cette question-là. Donc ça fait beaucoup de monde. C'est aussi pour ça que l'onde de choc est si lourde, hein, parce que c'est d'abord les victimes, avant tout, leurs plus proches, mais c'est aussi toutes ces interrogations-là qui peuvent être extrêmement angoissantes pour les gens.
À ce stade de la conversation, on ne peut pas ne pas parler du célibat des prêtres. Vous allez au café du commerce, on vous dit, évidemment, s'ils étaient mariés, le problème ne se poserait pas. Et vous, vous dites après tout, moi le célibat, moi, Véronique Margon, ça me va bien. Vous le dites de manière un peu plus subtile que ce que je viens d'énoncer. Vous dites, en ce qui me concerne, je vis le célibat au sein d'une vie commune qui a pour vocation de chercher Dieu par l'étude, la prière, la vie fraternelle, et qui a pour passion, pour douce fatigue, d'annoncer la bonne nouvelle à des personnes en chair et en os. Depuis plus de 30 ans, être célibataire m'a plutôt soutenu dans cette mission. Cela m'a donné une forme de liberté, d'attention, je crois.
Oui, non, mais je ne veux pas faire de mon histoire singulière.
Ah, mais ça compte quand même, une histoire singulière.
Oui, mais bon, la situation des prêtres, en particulier des prêtres diocésains, est fort différente, hein, de la situation, hein, des religieux ou religieuses vivant dans des communautés qui, en principe, sont fraternelles, parfois le sont un peu moins selon les moments de la vie, bon, sont parfois aussi sont conflictuelles, enfin, comme dans toute vie. Avec d'autres, mais je pense que sur le fond, la question du célibat, j'aimerais qu'on arrive vraiment à la séparer de notre sujet. La question du célibat des prêtres, elle se pose, elle est en train de se poser d'une certaine manière au synode de l'Amazonie ces jours-ci, de par évidemment la situation des communautés chrétiennes dans cette immense région du monde si inhospitalière. Donc, bien, cette question-là se pose, elle se pose depuis longtemps, elle a des raisons historiques, bon, très bien. Mais vraiment, je pense qu'il faut absolument la séparer de la question des agressions sexuelles et des viols pour plusieurs raisons. D'abord parce que, bien tristement, nous savons que 90% au moins, voire 93% des violences sexuelles sur enfants sont commises en famille. Autrement dit, le lieu du plus grand danger pour l'enfant, c'est toujours son lieu le plus proche. Nous croyons tous, enfin nous voudrions croire jusqu'à la fin de nos jours, tous les uns et les autres, que le lieu du danger, c'est le lieu le plus lointain, le plus... voilà. Mais pas du tout, c'est tragiquement voilà, le plus proche. Et donc, ces incestes sont le crime des pères, des frères, des oncles, des grands-pères, parfois des mères. Bon, voilà, enfin, en tout cas, tout ce petit monde n'étant nullement célibataire. Donc déjà, ça vient interroger. La deuxième chose, c'est que, vraiment, alors là, comme femme, je n'apprécie guère qu'on vienne me dire qu'il suffirait que les prêtres soient mariés, donc ben, des femmes, je suppose, pour que les choses s'arrangent. Je trouve ça un peu douteux sur la manière de considérer les femmes. Et franchement, je ne compte pas y participer, pas même à l'idée de cela. Donc je pense que c'est pas forcément une bonne voie. Après, la question de fond, elle est sur la question de la maturation affective, de la maturité affective, sur la possibilité de vivre un rapport à la solitude qui est très particulier. Tout le monde vit la solitude, quelle que soit sa situation de vie, tout le monde. Mais sauf que dans une vie célibataire, a fortiori de prêtre diocésain, elle a des particularités qui relèvent pour certaines, je trouve, d'une vraie austérité. Donc ça, c'est une vraie question, y compris de comment les communautés catholiques sont attentives à cela. Si je prends simplement une petite chose, enfin, moi, dans la communauté, bon, j'ai la chance d'avoir une communauté où je suis heureuse, bon, et où, malgré mes responsabilités réelles, bon, si je ne suis pas bien, je ne suis pas obligée de faire une bonne mine... À tout craint, si je suis complètement épuisée, ça se voit. Alors bon, heureusement, les sœurs ne téléphonent pas à l'hôpital, mais enfin, elles sont attentives, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où on dépose les lances. Il y a un endroit où
c'est une expression de Lévi-Strauss.
Oui, où on est simplement soi-même, enfin, pour autant qu'on puisse l'être, où on n'est plus en rôle. Un prêtre diocésain, surtout s'il a beaucoup de clochers, surtout s'il vit un peu seul parce que c'est sa nature ou parce que c'est sa... mission, là où il est, dans des diocèses compliqués ou grands, il peut être tout le temps en rôle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de lieu de répit humain. Parce que les lieux de répit, de se mettre devant son smartphone, sa télé, ça ne fait pas de l'humanité, ça. C'est des lieux d'interlocution, des lieux de conversation simples, comme on l'a avec ses amis, comme on l'a avec des proches, où on ne se dit pas « Oh là là, mais si je dis ça, ça va sortir d'ici, ou qu'est-ce qui va se passer ?» Non, où on peut être à peu près soi-même. Et pour moi, c'est d'abord ces questions-là qu'il faut voir, parce qu'en plus, je pense que, en dehors tout à fait de notre sujet, c'est beaucoup de souffrance pour beaucoup de prêtres, qui n'ont rien de pédocriminel, ni rien de tout cela, évidemment, mais c'est beaucoup de souffrance. Donc, ça mérite vraiment qu'on y... travail, c'est le cas depuis de nombreuses années, mais en tout cas, il faut sûrement le repenser encore ou continuer à le penser, et puis selon les pays, c'est pas la même chose. Donc pour moi, c'est d'abord ces questions-là. C'est pas pour évacuer la question du célibat, mais je pense que vraiment, on gagnera beaucoup à la distinguer vraiment de la question des abus de pouvoir et des agressions sexuelles, parce que ça me paraît vraiment pas juste. De mêler cela comme s'il y avait une sorte de remède. Puis alors ça veut dire que vous instrumentalisez la femme, quoi. Après avoir instrumentalisé l'enfant, on instrumentalise la femme et par-dessus le marché. Enfin, je ne sais pas s'il y a des psys ou des psychanalystes parmi vous, mais tous les spécialistes vous disent que quand bien tragiquement vous êtes face à un pervers qui veut un enfant dans son lit, vous pouvez bien mettre une femme, hein, ça ne va pas le faire. Donc c'est aussi ça la réalité, c'est que... Alors des tas de personnalités chez des pédocriminels. Tous ne sont pas des pervers au sens psychiatrique du terme. Mais bon, donc vous voyez, enfin, moi, pour moi, ça fait beaucoup de raisons pour que vraiment on distingue ces plans par respect pour les personnes, par respect pour les victimes, par respect pour les femmes, et puis par respect pour la tradition, enfin pour que les choses se réfléchissent dans leur contexte, à la fois anthropologique et théologique.
Vous avez beaucoup insisté, à juste titre, depuis le début de notre conversation, sur le caractère gravissime, scandaleux, systémique de cette crise. Pour autant, vous n'avez pas perdu tout espoir, et vous terminez ce livre par un chapitre qui est intitulé « Les 12 travaux de l'Église », comme les 12 travaux d'Hercule, sauf que c'est encore bien plus compliqué que les 12 travaux d'Hercule, parce que Hercule, il nettoyait les écuries d'Augias, après il allait compter Fleurette à l'hydre de Lerne, etc. Donc là, vous dites « Les 12 travaux de l'Église sont amenés en même temps ». Alors, on ne va pas, parce que... il va être temps de vous donner la parole. On ne va pas passer les 12 travaux en revue les uns après les autres. De manière un peu arbitraire, j'en ai choisi deux. Le premier, vous dites, il faut désacraliser la figure du prêtre.
Oui, je l'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense que c'est un, je parlais il y a 3 jours avec un supérieur de séminaire. Et vraiment, qui avait un propos, je trouvais vraiment plein de justesse sur ces sujets. Nous faisions une conférence ensemble. Et il disait lui-même, il disait, mais plus vous mettez les prêtres sur un piédestal, plus ils se croient obligés de se conformer à l'idéal. Et plus ils se croient obligés de conformer à l'idéal, eh bien, plus quelque chose se fissure en eux, puisque, sans même s'en rendre compte, ils vont jouer à un personnage pour être conformes à ce que l'évêque, mais aussi les fidèles, mais je ne sais pas qui, ses parents, peut-être, attendent de lui. Il va tout faire pour s'y conformer, parce qu'au départ, il n'y a aucun problème, enfin, au départ et à l'arrivée, j'espère, c'est un bon type. Il est généreux, il veut donner sa vie. Donc, ben, si c'est l'image qu'on lui montre qui est là-haut, eh ben, il faut aller là-haut. Y compris si sa personnalité psychique ne peut pas y aller. Et de toute façon, personne de nous n'atteint l'idéal. Il n'y a quand même rien de pire que cela, parce que personne de nous ne vit dans l'idéal. Et heureusement, sinon nous ne serions pas faits de chair et de sang. Donc, vivre dans la justesse, je pense que c'est un bon défi, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Et je pense que ceci, cet idéal qui correspond à cette sacralisation, a provoqué beaucoup de distorsions de personnalité, de faux selfs, comme dirait Winnicott, c'est-à-dire des fausses personnalités, mais qui s'ignorent elles-mêmes, encore une fois. C'est-à-dire qu'il s'agit de correspondre à ce qu'on attend. Et je finis par y croire que j'y corresponds. Ben, sauf qu'un jour... heureusement, pas forcément de manière criminelle, mais y a quelque chose qui craque. Hein, et on rencontre des gens, alors comme dans toute vie, mais qui vont mener sans du tout être criminels de rien, mais des doubles vies. Tant qu'on ne considère pas que ces hommes sont appelés, invités, nommez cela comme vous le voulez, à être prêtres, mais à être prêtres comme des hommes. Pas comme des surhommes, pas comme des faux hommes, pas comme des saints, pas comme des purs, mais comme hommes dans leur humanité, avec ses fragilités. Et il n'y a que, nous le savons tous ici, c'est que dans une connaissance suffisante de ses fragilités, qu'on peut essayer de s'ajuster. Parce que à partir du moment où on les connaît un peu, eh ben on sait où il faut faire attention, on sait aussi où il faut travailler sur soi. Et ça, je pense que... Alors, il y a aussi le fait que dans un certain nombre de lieux, c'est pas vrai partout, hein, mais cette sacralisation est aussi a été portée par un discours sur le prêtre. Alors, un discours théologique, ecclésiologique, parfois un discours au séminaire, et donc toute la question de la place des sciences humaines dans ce souci-là, quand même, hein, de prendre en compte l'humanité telle qu'elle est, surtout quand il s'agit de... Pas tout le temps, de toute façon, mais quand il s'agit de jeunes hommes de 22-23 ans, enfin, avant de savoir comment ils vont être pères de leur communauté, il faut pouvoir se demander comment ils vont être des hommes, hein, et comment, voilà, comment on peut, comment la communauté, comment l'Église peut manifester que oui, ces hommes vont pouvoir vivre dans ce choix de vie particulier et servir l'Évangile, servir leur communauté de cette façon. Donc je pense que oui, désacraliser, mais désacraliser, ça veut dire changer la façon de vivre des communautés. Alors l'Église de France a cette chance d'avoir beaucoup de laïcs en responsabilité, hein. Voilà, comme nombre d'églises européennes d'ailleurs, hein. Beaucoup, mais sans doute pas encore assez, et sans doute pas encore assez à tous les niveaux. Parce que la question, c'est qu'il n'y ait pas de plafond de verre, quoi, hein, comme on dit dans le monde de l'entreprise, à dire, moi je vois beaucoup de gens en responsabilité dans les diocèses, c'est vrai du diocèse de Nantes, hein, des laïcs, des femmes, et donc des gens qui vont être en responsabilité diocésaine, sauf qu'au moment de la gouvernance du diocèse, là, il n'y a plus que des prêtres. Donc je pense que désacraliser, pour moi, c'est mettre de l'altérité, hein, c'est mettre de la pluralité. Et plus on le fera, plus la communauté sera saine. Après, il n'y a pas de remède miracle, hein, mais plus elle sera saine, et du coup, plus elle sera évangélique, hein, avant même ce drame.
Cela nous amène directement, et ce sera ma dernière question, à évoquer un autre des chantiers que vous assignez à l'Église, promouvoir la place des femmes. Comme vous y allez.
Bah, je ne suis pas originale, parce que y a je ne sais combien de discours du pape François sur cela déjà. Hein. Oui, non, je sais bien. Non, mais, donc bon, mais cela étant, en tout cas pour nous, dans les sociétés occidentales, où nous avons cette chance quand même que, même si on ne peut pas encore considérer que la place des femmes est absolument égale de la place des hommes, on le sait bien dans les salaires, on le sait dans un certain nombre de hautes responsabilités, par exemple de la haute fonction publique ou des grandes entreprises, n'empêche que quand même c'est incomparable avec ce que c'était il y a ne serait-ce que 25 ans. Dans l'Église, les pas sont nettement plus lents. Et la situation actuelle montre, je crois, qu'ils sont trop lents. Alors en même temps, il faut faire attention, parce que la place des femmes, ce n'est pas pour remplacer les hommes et surtout pas pour remplacer les clercs. Dire, il ne s'agit pas de faire des femmes des clercs de demain au sens des prêtres d'aujourd'hui, quoi. Hein, je pense que ça serait une grosse erreur, sans... vraiment. Donc je pense que la question de la place des femmes, c'est tout simplement parce que ben, les femmes sont au moins la moitié de l'humanité, qu'elles sont entre les deux tiers et les trois quarts de l'Église, sans doute plutôt les trois quarts que les deux tiers, et que ça suffit comme raison, et que jusqu'à preuve du contraire, nous avons autant de neurones, autant de... Voilà. Ça a été long à démontrer, mais je pense que quand même on y est. Donc qu'il n'y a aucune espèce de raison qu'il en soit autrement. Donc c'est, pour moi, c'est une question de réciprocité. Plus il y aura de l'altérité, mieux on se portera. La sensibilité, non pas de la femme, parce que moi j'ai jamais rencontré la femme, mais la sensibilité des femmes n'est pas la même que la sensibilité des hommes. Et donc tout cela est nécessaire à la vie de l'Église. La façon d'exercer les responsabilités, bon, sans du tout caricaturer ni les uns ni les autres. Donc tout ça est nécessaire. Les expériences, les compétences ne sont pas les mêmes. Et l'Église ne se sortira de cette tragédie, d'abord qu'en faisant la lumière, avant toute chose, vraiment, qu'en faisant la vérité, autant qu'il soit possible de le faire à vue humaine, qu'en pratiquant la justice, hein, comme dit le prophète Michée, et en intégrant beaucoup plus de pluralité en son sein au niveau des responsabilités, et pas seulement au niveau des fidèles, dans la participation à l'Eucharistie, mais au niveau de des responsabilités vraiment dans l'Église. Et vraiment, je crois que c'est le pape François lui-même qui a posé cette question. Pour conclure, on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de responsabilités dans l'Église où on ne voit pas très bien pourquoi c'est forcément un prêtre qui est en responsabilité. Vraiment, bon, moi, il se trouve que mes responsabilités m'amènent... Bon, c'est pas désagréable d'aller à Rome... vu la ville de Rome, mais...
C'est une belle ville, en effet.
Quand même, on va pas se plaindre que le Saint-Siège soit à Rome, mais vraiment, enfin, quand je rencontre nos interlocuteurs dans ces ministères-là, dans ces dicastères, mais je pense que la plupart d'entre eux pourraient être absolument des laïcs et des femmes, sans aucun problème. Donc la question, il faut se la poser, jusqu'ici, tout ce petit monde était non seulement des hommes, mais des hommes prêtres. Je pense qu'il faut se poser la question à l'envers. C'est-à-dire, en fin de compte, quelles sont les responsabilités qui vraiment doivent incuber à des prêtres. Il y en a, bien évidemment. On n'imagine pas un évêque qui ne soit pas un prêtre. Donc, bien sûr qu'il y en a. Mais il faut se la poser dans ce sens-là, hein, plutôt que dans l'autre sens. Donc, peut-être que tout cela, mis bout à bout, fera qu'on va trouver, en quelque sorte, un chemin pascal. Le chemin pascal exige que nous poussions... Enfin, vraiment, des choses doivent mourir, hein, parce qu'il n'y a pas de chemin pascal sans mort. Donc, des choses doivent mourir. Des façons de faire, des façons de penser doivent mourir, mais c'est parce que nous croyons, enfin en tout cas moi, vraiment fermement, que le dimanche de Pâques, que du relèvement, mais qui est non pas le relèvement de l'institution par elle-même, de l'Église par elle-même, hein, mais par son Seigneur, peut vraiment advenir, quoi, hein, et n'adviendra pas non plus sans les victimes, hein, et sans la place des victimes, sans presque étonnamment en fin de compte le soutien. C'est moi, je suis toujours très émerveillée, très très émue, très bouleversée du nombre de victimes qui sont prêtes à nous aider. Je me dis, enfin, quand même, enfin, vraiment, je vous assure, hein, rien que pour elles, et, ouais, il faut le faire, et il faut le faire jusqu'au bout.